Ce soir, nous recevons Philippe Walter, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, directeur du Centre de recherche et de restauration des musées de France, qui va nous parler de l'invention d'une chimie pour la beauté. Nous continuerons encore demain et après-demain ce cycle. Je vous signale aussi, comme c'est indiqué sur les dépliants à votre disposition à l'entrée, que les 17, 18 et 19 juin se dérouleront à Versailles, à la salle du Jeu de Paume, les seconds entretiens du Jeu de Paume sur la démocratie, que l'Université de tous les savoirs a conçu pour, dans le cadre de son partenariat avec le domaine et le château de Versailles. Et le thème de cette année, c'est la séparation des pouvoirs. Si vous pouvez vous rendre libre, je vous engage vivement à y assister, parce que je pense qu'il s'y dira des choses assez piquantes. Bon, vous connaissez, puisque vous, là pour la plupart, je vous connais, vous êtes des habitués, les modes de diffusion. Je vous renvoie aux programmes qui sont à votre disposition. Ce que je signale et que je répète une fois encore, c'est que toutes nos conférences sont filmées, sont archivées avec les documents à l'appui sur notre site www.utls.fr. Et toutes les conférences depuis l'an 2000 sont sur ce site, y compris avec les textes, quand les conférences ont déjà été publiées. Je reviens à la présentation de notre conférencier de ce soir, qui est à mes côtés. Il s'agit de Philippe Walter, qui est né en 1967, qui est directeur de recherche au CNRS, et donc, comme je l'ai dit, directeur du Centre de recherche et de restauration des musées de France, ancien élève de l'École normale supérieure de Lyon, docteur en géochimie de l'Université Paul Sabatier de Toulouse en 1993. Il a organisé plusieurs expositions pour valoriser ses travaux au Musée égyptien du Caire en 2002, à Paris en 2008, chercheur au CNRS depuis 1995, médaille d'argent du CNRS, nous avons déjà eu l'autre jour la présence d'une médaille d'or du CNRS, en 2008 et en 2010, le prix franco-américain Franklin Lavoisier. Il est responsable de nombreuses manifestations dans le cadre de ses responsabilités scientifiques au sein des musées. Ses recherches l'ont amené à développer de nouvelles méthodes d'analyse adaptées à l'étude des matériaux anciens à l'aide de l'accélérateur de particules de Aglaé, qui est dans le laboratoire du Centre de recherche et de restauration des musées de France. Son intérêt s'est particulièrement porté sur l'emploi de la chimie analytique pour révéler le développement d'une chimie pour la santé et la beauté durant l'Antiquité, il va nous en parler, ou l'élaboration de nouveaux matériaux de peinture, par exemple, pendant la Renaissance. Alors, je ne vous donnerai pas, vous le trouverez sur le site, je ne vous donnerai pas le détail de ces publications, parce que ce sont des articles dans des revues scientifiques, et dans des ouvrages et dans des catalogues, qui sont très nombreux et assez techniques, mais vous pouvez trouver toutes ces indications sur notre site, en rapport avec la conférence. Voilà, je vais donc donner la parole à Philippe Walter, comme d'habitude, pour une cinquantaine de minutes, sans que ça soit minuté exactement, et puis ensuite, bien sûr, il répondra à nos questions. Voilà, merci.
Bien. Allez. Bien. Merci, merci beaucoup pour cette invitation, pour venir vous parler ce soir dans ce cycle sur la chimie, de multiples aspects de la chimie. Et ce soir, je voudrais un petit peu vous raconter, disons, les différents résultats ou quelques-uns des résultats de notre enquête menée pour essayer de retrouver donc une invention de la chimie pour la beauté. Alors pourquoi cette idée? C'est parce que dans notre vie quotidienne, il y a beaucoup de domaines où la chimie peut être présente, hein, c'est notamment une des motivations des conférences de cette semaine. Et dans le domaine de la beauté, c'est tout particulièrement le cas. Donc je ne vous parlerai pas aujourd'hui des produits cosmétiques que l'on peut utiliser, mais je me déplacerai dans le temps, il y a 4000 ans, 3000 ans, 2000 ans, voire un tout petit peu moins, pour essayer de regarder finalement comment l'être humain a réussi à inventer toute une série de technologies chimiques de façon à fabriquer ce qui lui manquait. Pour être beau, pour séduire, pour bien conserver sa peau, pour avoir des cheveux qui restent noirs, par exemple, on a besoin de faire toute une série de transformations, et c'est ce que l'on cherche à étudier. Et donc je vais vous emmener tout de suite dans l'Égypte ancienne, qui va être une grande part, finalement, de mon exposé, parce que bien évidemment, en Égypte ancienne, on a toute une série d'informations qui nous ont été laissées, et notamment parce que les anciens Égyptiens considéraient qu'ils allaient revivre dans l'au-delà, et pour
pouvoir vivre dans l'au-delà, ils avaient besoin de toute une série d'objets, de représentations, des scènes de la vie quotidienne. C'est pour ça qu'on a ces six belles tombes, enfin c'est notamment pour ça qu'on a ces six belles tombes en Égypte, avec des scènes représentées sur les murs, et également un grand nombre d'objets qui sont pour nous une source quasi inépuisable finalement de sujets de recherche. Et donc là vous avez derrière moi une peinture, alors très abîmée, mais très intéressante dans notre cas, parce qu'elle raconte en fait le procédé de fabrication d'une matière qu'on pense être un parfum, que je détaillerai pas forcément énormément ce soir, mais vous voyez, il y a toute une série d'artisans qui travaillent et qui font différents types de gestes, d'écrasement de substances. Ici, des grands vases, on peut penser à des macérations. Ici, vous avez un modèle de four où l'artisan est également en train de touiller, de tourner le mélange, l'onguent, qui va pouvoir ensuite proposer, par exemple, pour des rituels funéraires ou pour la vie quotidienne. Donc on a un grand nombre comme ça de... Enfin un grand nombre, on a quelques représentations très techniques qui nous donnent un petit peu une idée sur ce développement d'une science chimique il y a au moins 4000 ou 5000 ans. Alors quand on pense à ça, immédiatement le réflexe... Oui, vous voulez ? Alors c'est... Moi je ne sais pas faire, mais ça va peut-être être fait si c'est possible. Donc dans cette chimie, le premier réflexe très classique que l'on a est celui de considérer que c'est d'abord la métallurgie qui est certainement la plus ancienne des chimies. Et c'est vrai que la transformation d'un minerai de cuivre pour en faire un métal, pour l'allier avec par exemple de l'étain, pour en faire du bronze ou du zinc, pour en faire du laiton, est une invention chimique complètement extraordinaire et une transformation de la matière qui nécessite de très très hautes températures. Alors nous, dans notre enquête, que vous allez le voir tout à l'heure, finalement on se rend compte que ce n'est pas ces arts du feu, ce n'est pas ces hautes températures qui vont être utilisées pour fabriquer les produits de beauté, mais c'est une autre forme de chimie. Un deuxième aspect, donc je ne sais pas si la lumière est un peu baissée, si c'est mieux, un deuxième aspect est celui qui est lié finalement à la nature de l'Égypte et puis finalement à la tradition qui nous en revient. Donc on est tous fascinés par la vie quotidienne égyptienne, mais également si on regarde, et c'est pas accepté de manière systématique, mais beaucoup d'égyptologues sont d'accord, le nom de l'Égypte était un nom particulier qui se prononçait peut-être Kemet ou Kemi, donc vous voyez le lien que je veux en faire, la terre noire, sans doute, dans une traduction, la terre noire, en fait, la terre très fertile qui existait dans la vallée du Nil, et donc c'est un mot qui ensuite, par le monde arabe, s'est transformé en alchimie et qui a donné également notre mot moderne décrivant notre science chimique. Et donc c'est aussi très intéressant de voir finalement que cette origine du vocabulaire nous ramène de nouveau dans ces temps très passés, donc avant une époque que je vais dire médiévale, au sens large de la chronologie, où l'alchimie va vraiment remplacer toute une série de savoir-faire extrêmement techniques qui ont été développés dans l'Antiquité. Et donc nous, on a deux manières finalement d'étudier cette chimie des anciens. Alors nous, on fait ça aujourd'hui, donc dans le laboratoire où je suis, donc je ne suis pas le directeur du centre de recherche des musées de France, mais juste de son laboratoire. Et on cherche à développer des méthodes d'analyse pour comprendre la nature des matériaux. Et donc c'est un des aspects primordiaux. On va retrouver des flacons contenant les produits de beauté. On va pouvoir analyser ces produits de beauté et comprendre les pratiques qui existaient. Et puis un autre aspect qui est extrêmement intéressant et que l'on développe également de manière de plus en plus fréquente, c'est la reconstitution des savoir-faire. Parfois ces matières ne nous sont pas parvenues parce qu'elles se sont altérées, parce qu'elles ont été perdues, parce qu'elles n'ont pas été conservées correctement, mais par contre des textes, eux, sont parvenus jusqu'à nos jours. Et donc on peut, en les regardant, reconstituer des recettes, et je vais vous montrer donc différents exemples. En fait, je vais vous montrer quatre aspects finalement de cette recherche, et qui également, vous allez le voir, de manière très surprenante pour notre société contemporaine, est très très lié à une chimie du plomb. En fait, l'invention de la chimie dans l'Antiquité, l'invention de cette chimie pour la beauté, est liée à la maîtrise de toute une série de transformations des minerais de plomb. Et ça c'est quelque chose, j'en reparlerai, de particulièrement surprenant, étant donné qu'on considère toujours, nous, la grande toxicité de ces substances. Et on va regarder tout à l'heure dans l'exposé également, comment les anciens finalement se rendaient compte également de cette toxicité. Donc le premier aspect, c'est celui de l'élaboration d'un phare en Égypte ancienne. Donc là vous avez une petite peinture très sommaire, faite sur un petit éclat de pierre, qui est Louvre, où vous voyez ici une femme en fait qui est en train d'allaiter un enfant, donc la maîtresse de maison avec une perruque sur la tête, et devant une petite servante qui lui amène un miroir, vous voyez là le rond ici, donc c'est un miroir en bronze, et puis un petit flacon à phare qui en fait est un tube ici, qu'elle tient dans la main, avec un stylet qui est planté dedans. Donc ça, c'est une des rares scènes de la vie quotidienne qui nous montre cet usage très très important de ces phares noirs pour les yeux, que l'on connaît bien, puisque si vous pensez tout de suite à l'Égypte ancienne, et vous pensez à des représentations de sculptures ou de peintures de l'Égypte ancienne, ben vous voyez ce trait noir de col, avec le vocabulaire d'aujourd'hui, de col autour de l'œil, prolongeant l'œil, parfois jusqu'à la tempe. Et là, on a une grande, grande variété de dessins qui pouvaient être employés à cette époque-là. Et puis nous, ben, comme les Égyptiens mettaient les objets de la vie quotidienne dans leur tombe, ben, on va pouvoir retrouver toute une série de ces objets. Et là, vous en avez quelques exemplaires. Vous avez ici, sur le côté, ce tube. Alors, ce tube, c'est un simple roseau du Nil. Juste un on a bien coupé, de façon à conserver le nœud du roseau qui maintient la matière à l'intérieur. Donc le nœud est ici, et vous avez une inscription dessus, et une inscription que l'on peut traduire disant que c'est un phare appelé Mesdemet, je vais vous expliquer un petit peu ce que ça signifie pour les Égyptiens, qui est véritable et excellent. Donc c'est intéressant, parce que celui-là est véritable et excellent. Vous verrez qu'en fait, il y a une grande complexité. Et Mesdemet, c'est le mot que les Égyptiens utilisaient, pas pour décrire la couleur, mais pour dire que c'était une poudre minérale pour rendre l'œil expressif. Il ne désignait pas le nom du minéral, il disait que c'était une poudre minérale pour rendre l'œil expressif. Et donc vous avez également d'autres flacons ici, qui sont en pierre, cette fois-ci, vous voyez, avec parfois des couvercles. Ces flacons, ben, si on les radiographie, c'est une méthode très simple pour regarder leur contenu, ben, vous voyez qu'on a des matières qui apparaissent en radiographie très blanches, donc qui sont très absorbantes pour les rayons X, et en fait qui sont les restes de produits cosmétiques. Donc vous voyez que le roseau, par exemple, est encore complètement plein. Donc on a comme ça au musée du Louvre un bon nombre de ces flacons qui contiennent encore des résidus très très importants de matière, et que nous, on peut donc se permettre de prélever. Alors on va dire se permettre de prélever de manière déontologique, c'est-à-dire en prélevant le strict minimum qu'on a besoin aujourd'hui pour faire de bonnes analyses chimiques avec des outils performants. Donc le minimum, c'est une fraction de millimètre cube. En général, un demi millimètre cube nous suffit amplement pour faire toutes les mesures que l'on veut. Donc bien entendu, on garde le maximum de matière à l'intérieur de ces flacons pour d'autres chercheurs dans l'avenir qui étudieront ces substances. Donc on a pu étudier 80 échantillons comme ça du musée du Louvre, juste du musée du Louvre. Et là vous voyez trois photos au microscope optique vous montrant en fait les trois couleurs que l'on retrouve à l'intérieur de ces flacons. Je vous parlais de phare Mesdemet, de ce phare que l'on considérait de couleur noire, en fait noire ou grise, que vous voyez ici. Mais parfois il est extrêmement pâle, il est un gris clair. Et puis dans certains cas on a aussi quelques échantillons qui nous montrent qu'un phare vert pouvait être utilisé. Alors je vais insister un tout petit moment sur ce phare vert, puisqu'en fait c'est un petit peu le témoin d'un passage technologique majeur dans les développements de la chimie. Pourquoi ? C'est parce que ce phare vert existait dans les périodes les plus anciennes de l'Égypte. Il existait dans les périodes qu'on appelle prédynastiques, ou dans les premières dynasties de l'Égypte, donc il y a 3000 ans avant notre ère, 5000 ans avant aujourd'hui au moins, et a commencé à n'être quasiment plus utilisé, on va dire, à partir de la période des constructions, de la construction des grandes pyramides. Et là, vous voyez un autre exemple d'une des rares représentations que l'on a en Égypte d'un dignitaire, qui s'appelle Sepa, c'est une sculpture toujours du musée du Louvre, où vous voyez un trait cosmétique vert qui est placé, cette fois-ci, uniquement sur la paupière inférieure de l'œil. Et ce trait cosmétique nous rappelle, nous ramène à toute une série d'autres découvertes archéologiques qui ont été faites, par exemple à Adaïma, dans le sud de l'Égypte, par l'équipe de Béatrix Midan-Reine, où on a pu retrouver sur des squelettes, des pseudo-momies à cette époque-là, on a pu retrouver des traces de phare vert sur les ossements de ces momies. On a pu retrouver également des petits paniers, des petits récipients faits en bois avec les morceaux de matière première qui devaient être broyés sur une palette, comme vous l'avez ici, de façon à fabriquer cette poudre verte, je dirais, à la demande. Donc on a les petits blocs que l'on broie. Ces petits blocs, on peut les analyser. Ce sont des minerais naturels de cuivre, de différentes sortes. Donc les personnes allaient chercher dans la nature ces minerais de cuivre et au dernier moment, on va dire, les broyer de façon à faire ce trait sous l'œil. Mais ensuite, ça ne sera plus du tout le cas. On arrivera à des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus sophistiquées pour tous les phares noirs qui existeront dans les périodes ultérieures de l'Égypte ancienne. Et donc pour ça, je vous ai dit, on fait un tout petit prélèvement et on va utiliser des moyens d'observation et d'analyse. Donc par exemple ici, vous avez une image recolorisée un petit peu, faite avec un microscope électronique à balayage. Donc un microscope électronique à balayage est un outil qui nous permet de regarder la matière avec des très très forts grandissements. Donc d'aller regarder des grains qui sont tout petits et en même temps de les analyser. Et donc quand on fait de telles observations, on se rend compte que vous avez là sur l'image une zone bleue qui correspond en fait à un gros cristal, vous voyez, qui est tout à fait plan. Et puis autour, vous avez toute une série de petits grains qui se mélangent. Vous voyez une masse très uniforme ici de grains tout petits. Ici, vous avez une échelle qui vous représente la taille des choses. Donc le petit trait correspond à 20 micromètres. 20 micromètres, c'est 2 centièmes de millimètre. Donc c'est une échelle déjà très très petite. À titre de comparaison, le diamètre d'un cheveu est à peu près 4 fois plus grand. Donc vous voyez, c'est donc une poudre très fine, ce qui est normal quand on veut se farder, mais qui est un mélange de différents types d'ingrédients que l'on peut chercher à analyser. Et donc là, se rendre compte, par exemple, que l'un des produits les plus fréquents dans ces produits cosmétiques est un composé de plomb, un sulfure de plomb qu'on appelle la galène, qui est par ailleurs bien connue et qui est de couleur noire. Et que cette galène, ben, elle pouvait être, vous voyez ces photos au microscope, elle pouvait être peu broyée pour faire des gros grains, comme une sorte de petit sable, ou très finement broyée. Là, c'est les gestes que je vous ai racontés un petit peu tout à l'heure, dans le cas des fards verts, sur les palettes. Mais en fait, on a des mélanges beaucoup, beaucoup plus compliqués que l'on a pu observer et décrypter. Et là, vous voyez encore un mélange d'un de ces fards que l'on a prélevé, qui a été placé dans un tout petit tube de verre. Alors un petit tube de verre qui fait 3 dixièmes de millimètre de diamètre. Vous voyez de nouveau, c'est vu au microscope. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez son hétérogénéité, la présence de grains noirs, de grains blancs. Et puis en fait, on l'a mis dans ce petit tube de verre pour faire des analyses avec une autre méthode utilisant des rayons X, qu'on appelle la diffraction des rayons X, et qui nous donne des informations sur la nature des minéraux. Tout à l'heure, on voyait bien qu'on avait des composés de plomb. Maintenant, grâce à la diffraction de rayons X, on va identifier les minéraux et de là se rendre compte qu'il y en a 4 qui apparaissent dans presque tous les produits cosmétiques noirs ou gris de l'Égypte ancienne. Et ces 4 minéraux, vous avez leur nom ici et leur formule chimique juste à côté. J'ai associé la galène dont je vous ai parlé, qui est noire, à un autre produit, la cérusite, qui est un composé également de plomb, un carbonate de plomb, qui lui est blanc. Alors je les ai associés parce qu'en fait on sait très bien d'où ils viennent. On sait très bien d'où ils viennent parce qu'on a des mines de plomb en Égypte, où on retrouve cette galène et cette cérusite de manière abondante, et des mines de plomb qui ont été exploitées par les pharaons il y a 3000, il y a 4000 ans, et qui ont été fouillées par des archéologues français dans le désert, au bord de la mer Rouge, la petite photo que vous voyez derrière moi. Et puis il y a 2 autres minéraux que vous voyez en bas à droite de l'image, alors qui sont des composés qui contiennent à la fois du chlore et du plomb, et dont les noms ne vous signifieront certainement rien du tout, la laurionite et la phosgénite. Alors je dis vous signifieront certainement rien du tout, parce qu'en fait ce sont des curiosités minéralogiques. Ils sont rares dans la nature, voire très 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 rares. Par exemple la laurionite n'existe quasiment pas à l'état naturel. Et nous pourtant on l'a en grande quantité dans nos produits cosmétiques de l'Égypte ancienne. Et donc quand on a fait cette observation, et qu'on s'est rendu compte que ces substances étaient là tout le temps, on s'est dit mais comment peuvent-elles être là ? Est-ce qu'elles sont issues d'altérations ? En fait, non, on peut démontrer que non. Donc ça veut dire que les Égyptiens les ont préparées, les ont fabriquées pour les ajouter à leurs produits cosmétiques et pour quel type de raison ? C'est une enquête compliquée, hein. C'est une enquête compliquée qui nous amène à regarder des textes, par exemple des textes antiques qui nous donnent ces fameuses recettes dont je vous ai parlé au début et qui sont une source extraordinaire pour comprendre les savoir-faire chimiques qui pouvaient exister dans l'Antiquité. Et donc vous avez différents auteurs antiques, vous avez notamment Dioscoride, qui était un médecin grec qui a vécu au 1er siècle. Là je vais beaucoup vous parler ce soir des textes de Pline l'Ancien, qui est un naturaliste, qui a écrit une encyclopédie, son histoire naturelle, où il raconte tous les savoirs de son époque, enfin notamment tous les savoirs de son époque. Et là vous avez un petit protocole, alors je vais dire de synthèse chimique. Vous allez voir en fait pourquoi finalement c'est un véritable protocole de synthèse chimique et pas juste une petite recette de cuisine primaire. Il raconte qu'on va prendre une substance qu'il appelle l'argitiris et qu'on va traduire comme de la litharge, qui est un composé de plomb, un oxyde de plomb, et que l'on va réussir à broyer dans des mortiers pendant 6 jours. Donc vous voyez, une manipulation longue, en la rinçant dans de l'eau froide 3 fois par jour, et vers la fin du jour, dans de l'eau chaude, où l'on a ajouté du sel de cuisine, du sel gemme, à raison d'une obole par livre d'écume. L'écume, c'est un autre nom de la litharge. Donc là, ben, en tant que chimiste, on va se dire, ben voilà, on prend l'oxyde de plomb, on prend de l'eau chaude. L'eau chaude, ça aide à solubiliser les matières. Et puis on prend du sel, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, on va avoir une réaction chimique qui va se produire. Et très très naturellement, ben, quand on voit ce type de choses, on va se dire, ah mais c'est tout ce qu'il nous faut comme ingrédient pour fabriquer la laurionite que nous on a vue. Et donc Pline l'Ancien nous raconte en fait la synthèse de la laurionite, mais en fait c'est un petit peu plus compliqué, parce que quand on étudie chimiquement ce qu'il se passe, mais en fait on a une réaction qui va permettre de produire la laurionite. La réaction chimique, c'est l'équilibre que je vous ai mis là-haut, mais simultanément à la production de la laurionite, vous produisez de la soude. Et cette soude, elle, si on étudie la stabilité des produits, ben, va solubiliser, va refaire partir dans la solution la laurionite si elle devient trop concentrée. Donc en étudiant des diagrammes de stabilité, c'est ce type de diagramme chimique où on étudie ce qui se passe en fonction de l'acidité ou de l'alcalinité de l'eau, et puis en fonction de la quantité de sel dans l'eau, ben, on se rend compte que cette recette de Pline l'Ancien est un tour de force, une astuce extraordinaire, car grâce au fait de répéter sans arrêt le broyage et puis l'ajout de l'eau chaude et du sel, ben finalement à chaque fois pour broyer et retirer l'eau qui était au-dessus, il n'avait plus que sa poudre, il remélangeait, il remettait les ingrédients, et qu'est-ce qui partait dans l'eau? Ben c'était la soude, et que c'était une magnifique méthode finalement de contrôle du pH, ce qu'on appelle le pH chimiquement, donc de l'acidité ou de l'alcalinité de la solution, et donc un tour de main qui permettait donc en 6 jours d'après cette recette de faire la transformation d'un composé en un autre. Et donc un autre composé, qui en fait est blanc, la laurionite est blanche, mais qui était lui aussi ajouté au phare, alors certainement pas pour changer leur couleur, puisque la cérusite, on a vu tout à l'heure, est aussi blanche. Et donc ben, on regardait la suite du texte de Pline l'Ancien, et on comprend pourquoi il a voulu rajouter, pourquoi il donne ce type de recette. C'est parce que donc à l'époque romaine, hein, on s'en servait pour les collyres, en pommade, pour faire disparaître chez les femmes les taches disgracieuses et les taches de la peau, et pour se laver les cheveux. Donc on voit notamment cet usage de collyre qui nous projette immédiatement en Égypte ancienne en se disant, ben, si les Égyptiens préparaient ces mélanges de pigments noirs, de pigments blancs et puis de ce chlorure de plomb, ben, ce chlorure de plomb avait une fonction très vraisemblablement pour soigner. Et donc c'est certainement quelque chose d'étonnant puisque ce soin par le plomb est quelque chose qui nous paraît complètement absurde et je vais y revenir dans un instant. Donc après je vous ai et qu'on avait un autre minéral qui s'appelle la phosgénite. En fait, cette phosgénite, on la retrouve aussi en grande quantité, et on retrouve d'autres types de recettes qui sont beaucoup plus compliquées à raconter et à expliquer, parce qu'il va falloir ajouter d'autres ingrédients, et notamment un composé qu'on appelle du natron, qui est un composé qui est très riche en carbonate, et qui était le composé très connu en Égypte ancienne comme le matériau de base pour la momification des corps. Donc un matériau qu'ils avaient également à leur disposition en grande quantité. Donc Pline l'Ancien nous dit que ça sert à soigner, mais finalement, Pline l'Ancien a vécu il y a à peu près 2000 ans. Il est mort durant l'éruption du Vésuve à Pompéi. Et nous, notre phare égyptien, on a 2000 ans de plus que Pline l'Ancien. Donc en fait, on fait un grand écart là. Et fréquemment, dans nos recherches, on est obligé de faire ce type de passage en pensant qu'il y a une certaine transmission des savoirs qui peuvent exister, mais qui nous oblige également à revenir dans des textes plus anciens. Et là, vous avez un papyrus. Alors je ne sais pas lire les hiéroglyphes, hein, qui est un fragment, une illustration, disons, d'une partie d'un grand papyrus médical qui est appelé le papyrus Ebers, du nom de l'égyptologue, et qui raconte près de 800 recettes de soins. 800 recettes, 800 formules, avec des listes d'ingrédients bien précis, permettant de soigner toute une série de maladies. Et parmi ces maladies, il y en a bien une centaine qui servent à soigner les maladies des yeux. Et là, je vous en ai mis une qui a été traduite par Thierry Bardinet, qui a publié en fait une traduction de ce papyrus Ebers, qui est égyptologue et médecin, et qui nous raconte donc un remède pour chasser quelque chose qui est dans les yeux, et vous allez retrouver certains composés, notamment la galène avec une certaine proportion. Vous voyez la précision des proportions, hein, ces fractions égyptiennes qui montrent qu'on va vraiment mélanger des ingrédients dans des quantités bien déterminées. Cette galène avec un suc de baumier, ce que Thierry Bardinet traduit par de la calamine, qui est un composé de zinc, mais qui en fait est de la cérusite, hein, j'en suis à peu près complètement persuadé. De l'ocre rouge, et puis un minéral que personne ne sait traduire, qui peut provenir là du sud de l'Égypte. En fait, on a d'autres recettes où il provient du nord de l'Égypte. Et l'Égyptien, à cette époque-là, il y a 3500 ans, savait que ce mélange devait être broyé finement, préparé en masse homogène, et placé dans les yeux jusqu'à ce qu'il guérisse parfaitement. Et donc cette idée d'un collyre, finalement, que l'on va utiliser grâce à ce type de mélange, qui nous ramène donc à ces recettes de Pline l'Ancien, et qui nous ramène à une analogie très très probable que l'on n'a pas encore pu démontrer. Ce minéral Sia que vous avez ici dans la recette, qui vient du sud ou du nord de l'Égypte, en fait ces deux minéraux sont très très probablement la laurionite et la phosgénite, que nous on sait identifier avec ce vocabulaire-là par rapport à nos analyses chimiques. Actuellement on n'a pas trouvé de flacon avec le nom du produit, donc un jour on le retrouvera peut-être en Égypte et on pourra en avoir la preuve absolue, mais c'est extrêmement probable. Et donc cette association finalement du soin et de la beauté, ce geste de se farder l'œil, qui est à la fois un geste pour séduire, et on le sait très bien dans l'Égypte ancienne, également un geste pour se soigner, va apparaître par toute une série d'objets également contemporains. Et d'objets, je vous ai montré tout à l'heure ce tube de roseau où il était marqué que le phare était excellent et véritable. Vous avez d'autres types de flacons, par exemple ici un flacon qui contient 4 récipients, donc un flacon en bois, avec 4 types de produits de nature différente. Ce sont les mêmes ingrédients que ceux dont je vous ai parlé, mais mélangés dans des proportions variables. Et vous avez encore d'autres types de flacons, comme ici, où vous avez des inscriptions hiéroglyphiques qui vous donnent justement la fonction et qui vous dit que c'est la poudre pour chasser l'œil, chasser le sang qui est dans l'œil ou chasser tel type de maladie, complètement en relation avec les papyrus médicaux et qui démontre ce très savant dosage, donc cette synthèse chimique volontaire de produits et d'un dosage qu'on va appeler une formulation très précis de façon à avoir des substances qui serviront à soigner. Et ça, c'est vraiment la démonstration de ce savoir-faire chimique très très important développé à cette époque-là. Où ? On ne sait pas forcément. Par qui ? On ne sait pas forcément. Mais en tout cas, la société égyptienne qui était soumise, la population égyptienne qui était soumise à un grand nombre de maladies des yeux, notamment à cause du désert qui crée des irritations ou à cause de la crue du Nil qui va pouvoir aider à la prolifération d'infections, ben finalement la société égyptienne a développé à cette époque-là toute une série de méthodologies chimiques pour fabriquer ces produits et donc des procédés de synthèse que l'on appelle aujourd'hui, que l'on pourrait dire, alors en analogie avec la chimie de Jacques Livage qui vous a parlé hier, cette chimie douce. Donc cette chimie qui est apparemment simple, la réaction décrite par Pline l'Ancien prend 6 jours, il faut mettre les ingrédients, des manipulations quotidiennes. On a d'autres recettes avec le natron qui peuvent prendre 30 jours, 40 jours. C'est une chimie longue, lente, qui nécessite un procédé très compliqué, mais qui finalement ne nécessite pas des hautes températures, qui ne nécessite pas des ingrédients extrêmement complexes et qui permet de soigner. Alors qui permet de soigner et d'empoisonner. Donc vous savez, on sait tous, on a tous appris cette idée que c'est la dose qui fait le poison, ou c'est la dose qui fait l'effet du médicament, comme on veut. Donc c'est Paracelse qui s'est vraiment préoccupé de ce genre de problématique, et que tout médicament peut à la fois être bon pour l'organisme et être extrêmement toxique. Et donc si on revient sur cette toxicité contemporaine de ces substances, ben on peut regarder ce qui existe encore aujourd'hui finalement dans ces phares noirs employés en Afrique du Nord, ou au Moyen-Orient, jusqu'au Pakistan et même jusqu'en Inde. Et on se rend compte qu'on a toute une série de flacons, là vous avez une petite notice, d'un des phares noirs qui est à base de plomb encore de nos jours et qui contient donc un produit qui peut être très utile pour traiter toutes les sortes de maladies des yeux, et donc on a différents types de maladies, là vous voyez les flacons eux-mêmes qu'on peut acheter dans différents souks, par exemple encore au Caire, où on va nous dire que c'est un très bon antiseptique oculaire, antimicrobien, exsudant d'abcès, etc. Donc toute une série de propriétés qui nous paraissent être assez surprenantes. Alors assez surprenant, d'autant plus que ces substances, finalement, ben, sont très 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 peu solubles. Alors ça, c'est une autre notion qui est intéressante, c'est que finalement, quand vous voulez utiliser un produit et le placer dans l'œil, ça veut dire que ce produit va pouvoir rentrer dans l'organisme, interagir avec l'organisme. Donc pour ça, il va falloir que ce minéral libère quelques-uns de ses composés. Donc par exemple, la galène peut libérer du plomb ou du soufre qui pourrait être actif par rapport à un traitement. En fait, la galène est quasiment totalement insoluble. C'est-à-dire, vous mettez de la galène dans le liquide lacrymal de l'œil, elle reste telle que, elle ne se solubilise pas. Ce qui est intéressant dans nos composés, notamment la laurionite, c'est qu'on peut calculer la quantité de plomb que l'ajout de ce minéral va produire dans l'œil et se rendre compte que ces quantités sont faibles de l'ordre de quelques micromoles. Donc quelques micromoles, c'est des quantités très petites, mais qui existent. Et donc on s'est dit, peut-être qu'il faut regarder ce qui va se passer finalement quand on a une cellule, par exemple une cellule de la peau, une cellule de la cornée, qui est soumise à ces quantités très faibles de plomb. Est-ce que c'est un intoxique ? Donc est-ce que c'est un produit dangereux ? Ou est-ce qu'il se passe des choses où finalement elle pourrait résister et produire certains phénomènes ? Et c'est une idée que l'on a explorée avec mon ami Christian Amator, qui est à l'École normale supérieure, au département de chimie de l'École normale supérieure, et qui a développé toute une série de technologies permettant de regarder des mécanismes biologiques in situ, et je vais dire en temps réel. Et ces technologies sont des méthodes d'électrochimie avec des toutes petites électrodes. Donc vous avez des schémas, un schéma ici d'une petite pointe, donc il va faire un micromètre, un millième de millimètre de diamètre, et que l'on va pouvoir placer à côté d'une cellule pour regarder finalement certaines molécules que la cellule émettrait soumises à une certaine, alors on va dire, excitation. Donc Christian avait commencé par exemple avec une petite pipette à casser la membrane de la cellule pour voir, ben là c'est grave, ce qui va se passer comme type de réaction. Et nous on va appliquer à cette cellule des toutes petites quantités de plomb, celles dont je viens de vous parler, celles qui sont libérées par notre lorionite. Donc dans l'idée de se dire, ben voilà, on a une cellule de la peau, donc un kératinocyte, comment est-ce qu'il réagit avec une quantité extrêmement faible de plomb. Et donc ça, on peut le faire in situ, c'est-à-dire que l'électrode va capturer ces molécules et puis va les convertir en signal électrique et puis on va voir ce qui se passe. Et donc vous avez ces courbes ici, donc il n'y a rien avant, et puis on va rajouter 0,2 micromol de plomb dans le milieu de culture, et puis là vous avez le temps. Alors le temps, on est à une demi-heure ici, à la fin du graphique. Donc vous voyez, au bout de quelques minutes, en fait, on a un message qui est envoyé par la cellule, une réaction chimique qui est produite par la cellule, qui va envoyer toute une série de molécules oxydantes qui vont être capturées par ces électrodes. Et puis vous voyez que si on augmente la quantité, on a ici 4 micromoles, deux fois plus, ben on a un signal qui est un petit peu plus fort, notamment en intensité, qui est beaucoup plus fort. Et puis après, donc avec Christian puis avec son équipe, on a fait toute une série d'autres expériences. Et si on monte trop la quantité, ben à ce moment-là, la cellule, au bout d'une demi-heure, elle n'est plus vivante. Elle a été détruite par le plomb, qui a donc une action directe. Donc si on multiplie par un facteur 10 la quantité de plomb, à ce moment-là, on arrive à une toxicité létale pour la cellule. Et donc après, on peut aller encore plus loin, et avec ces méthodes d'électrochimie, on peut comprendre ce qui se passe, et la nature de ces molécules oxydantes qui sont émises par la cellule dans un mécanisme qu'on appelle le stress oxydatif, et qui est le mécanisme en fait de réaction interne, de machinerie cellulaire interne. Et donc on peut regarder différentes espèces, alors notamment celle-ci, et en fait se rendre compte que l'on a, nous, à cause du plomb, on induit une augmentation massive de la production du monoxyde d'azote. Donc ça, c'est un fait que l'on sait mesurer, que l'on reproduit sur des dizaines de cellules et qui nous permet, disons, de commencer à réfléchir à quels peuvent être les bienfaits de ce type de produit. Est-ce que ce monoxyde d'azote a un intérêt pour l'organisme? Et ça, les biologistes nous répondent, ben oui, on le sait que le monoxyde d'azote est un messager important de notre système immunitaire. Et là, on fait tout de suite un lien qui nous intéresse beaucoup, hein, puisqu'on se dit, ben, ces substances servent à soigner des problèmes que l'on peut avoir dans les yeux. Et donc, si c'est un messager important du système immunitaire, ben, il va augmenter la vascularité sanguine, stimuler l'arrivée des macrophages, favoriser leur passage. Donc, en fait, si on a des bactéries qui commencent à proliférer dans l'œil, ben, l'organisme est là, en état de guerre, pour réussir à les détruire. En fait, ce monoxyde d'azote peut peut-être aussi agir directement sur ces bactéries. Donc, vu de loin, je veux dire, hein, on est très très loin de l'action médicale comprise jusqu'au bout. Mais vu de loin, en regardant la phénoménologie de ce mécanisme d'interaction, on se dit ben, finalement que cette idée égyptienne de fabriquer cette lorionite n'était pas si absurde. Elle libère tellement peu de plomb que ce n'est pas trop toxique, pas toxique même. Et puis en fait, elle induit un mécanisme de défense de l'organisme qui peut aider à soigner toute une série de maladies et notamment d'infections oculaires. Et donc c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit donc que cette inventivité, cette capacité à fabriquer des nouvelles substances, ben, peut, avec notre science moderne, être évaluée comme éventuellement pertinente. Chose qui me paraît, moi, relativement logique, étant donné que la tradition de fabrication de ce produit a duré plus de 2000 ans, puisqu'on l'a il y a 2000 ans avant notre ère déjà en Égypte, et que Pline l'Ancien, au 1er siècle, continue à nous raconter ses procédures. Les Égyptiens ont dû le transmettre à d'autres populations, notamment les Grecs et les Romains, et donc on se rend bien compte que c'est une substance qui a dû être très très importante dans le soin des yeux de toute l'Antiquité méditerranéenne. Mais bon, je ne veux pas dire que le plomb n'est pas toxique, et je ne veux surtout pas dire non plus qu'ils ne savaient pas que le plomb n'est pas toxique. Et pour ça, on va s'intéresser un petit peu à d'autres traditions qui existent à l'époque gréco-romaine, et avec le même type d'inventivité technique qui peut arriver. Donc là, vous voyez une petite tête d'une petite statuette que je représente ici parce que vous voyez très bien sa peau totalement blanche. En fait, les traditions grecques du maquillage étaient de déposer une couche blanche sur tout le visage, une couche blanche de nouveau à base d'un composé à base de plomb qu'on appelle le blanc de plomb. Et sur cette couche blanche, en fait, les femmes rajoutaient des petites taches roses sur les joues. Donc l'ancien, vous allez le voir, nous raconte les procédés de synthèse, je vais y venir très rapidement, mais également nous dit que ben, ces fards blancs à base de plomb sont employés donc pour se blanchir le teint par les femmes, mais il sait pertinemment que ces substances à base de plomb, ingérées, c'est-à-dire prises à l'intérieur, avalées, c'est un poison, comme l'écume d'argent, qui est le fameux oxyde de plomb qu'on a déjà vu et qu'il a l'argitiris, qu'on a déjà utilisé pour fabriquer d'autres types de produits. Donc il savait pertinemment que ce type de produit pouvait être dangereux par ingestion. Mais par application cutanée, ils considéraient que le danger, enfin ils avaient évalué, eux, avec leur protocole de l'époque, que le danger n'était pas trop grand. Donc qu'est-ce que c'est que le blanc de plomb? Ben, c'est ce type de substance que vous avez ici, qu'on arrive à retrouver donc dans des petits flacons grecs, par exemple ici sous forme de pastilles. Alors ça vient d'Athènes, les deux échantillons, notamment celui en haut, vient du cimetière du céramique. Et on a ces petites pastilles de blanc de plomb. Blanc de plomb qui était fabriqué de nouveau avec des recettes compliquées, où on mettait du plomb dans des pots de vinaigre qu'on laissait boucher 10 jours, et on raclait l'espèce de moisissure qui s'est formée, et on remet le plomb dans le vinaigre jusqu'à dissolution complète. Donc c'est encore une procédure qui est relativement longue, mais là qui se fait toute seule. Ils ont trouvé une solution pour avoir tous les bons ingrédients pour fabriquer, synthétiser directement le blanc de plomb. Et donc c'est comme ça après que cette substance pouvait être mise en pastille pour être fabriquée. Et donc là aussi, bah après nous, on peut reconstituer toutes ces procédures, les comprendre et se rendre compte qu'on a de nouveau une réaction chimique. Une réaction chimique qui va utiliser différents ingrédients. Cette fois-ci c'est du métal plomb, c'est le gaz carbonique de l'air qui va être utilisé, c'est l'eau, c'est l'acide acétique provenant du vinaigre qui va induire une réaction et qui va permettre de former un carbonate de plomb qui est blanc, qu'on appelle hydrocérusite, et dont vous avez la formule chimique là. Et là, ça nous donne donc un nouveau procédé de synthèse, un peu différent, toujours par chimie douce, assez simple, juste de la patience dans ce cas-là, mais qui a un intérêt extraordinaire, c'est que finalement, si on a beaucoup de plomb, ce qui était le cas des Grecs et des Romains, ça permettait de le transformer, de fournir des très grandes quantités de pigments blancs sans se fatiguer à aller chercher des mines qui permettaient de fabriquer ce type de produit. Et en fait, ils ne voulaient pas se fatiguer à avoir ce type de produit dans les mines, parce que les mines de plomb exploitées par les Grecs, notamment au Laurion, à côté d'Athènes, étaient des mines de plomb argentifères qui les intéressaient avant tout pour en extraire l'argent. Et donc ils avaient des quantités de plomb dont ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont pu faire plus tard des canalisations, ils ont pu fabriquer ce type de pigment. Et donc là, vous avez un élément d'une reconstitution que l'on avait faite au laboratoire. Vous voyez cette sorte de moisissure à la surface, donc ce blanc de plomb. Et donc c'est une voie de synthèse finalement très très efficace et très simple qui a pu être développée à cette époque-là. Et donc Pline l'Ancien, on continue à essayer de décortiquer ses savoirs et l'état d'esprit qu'ils avaient, va rajouter que les propriétés de ce blanc de plomb, donc qu'on appelle la céruse, sont les mêmes que celles d'autres pigments blancs dont il avait parlé auparavant, des argiles, de la craie, du plâtre. Mais elle est plus douce. Et il rajoute comme argument ultime, de plus, les femmes l'emploient pour se blanchir le teint. Alors là, c'est pareil, pourquoi ce pigment blanc de plomb est synthétisé? Pourquoi il est si exceptionnel? En fait, il est si exceptionnel grâce au procédé de synthèse et grâce à la minéralogie même des composés qui seront fabriqués. Et on a pu démontrer que le blanc de plomb qui se produit dans ces réactions n'aura pas n'importe quelle forme. Il va former des petits cristaux de très petite taille, de l'ordre du millième de millimètre, mais qui ne seront pas des cristaux de forme irrégulière, qui seront des cristaux complètement aplatis, comme vous avez ici un schéma. Donc des sortes de petites soucoupes, alors qu'il y a un intérêt cosmétique absolument extraordinaire, et on le sait encore aujourd'hui dans certains produits cosmétiques que l'on utilise, c'est que ces petites plaquettes vont venir se déposer sur la peau et très très facilement couvrir toute la peau pour donner un éclat, un teint blanc et un éclat extraordinaire. Et c'est pour ça que ce pigment était très employé, très apprécié à cette époque-là, extrêmement apprécié malgré toute une série d'autres inconvénients qui étaient très très connus, et je veux vraiment balancer entre cette toxicité et puis le bien-être issu de l'usage de ce plomb. Et là vous avez une peinture, bien entendu pas du tout de la même époque, mais une représentation en fait d'une scène grecque faite par Jérôme, par le peintre Jérôme, donc friné devant l'aéropage, qui est une représentation très intéressante, parce que vous voyez la peau représentée de friné totalement blanche. Donc friné est une femme qui a donc vécu vers le 4e siècle avant notre ère et qui a été l'une des plus belles femmes de son temps et qui a été la modèle, dit-on, de toute une série d'artistes, notamment la modèle de Praxitèle pour fabriquer certaines des plus belles scènes, des plus belles sculptures d'Aphrodite. Et donc là, vous voyez cette scène, en fait, c'est pour faire le lien entre un autre texte, alors rapporté par un autre auteur romain, médecin, Galien, et qui nous raconte une petite anecdote et qui montre de nouveau cette préoccupation majeure du bienfait et puis du danger de ces substances. Et en disant qu'une fois dans un banquet, donc la belle Frinée, ayant aperçu des femmes maquillées de céruse et de fard rose, a demandé comme jeu qu'on apporte de l'eau et qu'on se lave le visage, puis que l'on s'essuie aussitôt avec un tissu ce qu'elle-même a fait. Donc voilà, donc immédiatement elle se dit qu'elle est particulièrement belle, les autres sont maquillées, si on retire le maquillage, elles seront peut-être plus si belles, et donc c'est ce que les autres femmes ont fait, et leur visage, dit Galien, était plein de vilaines taches, tel un épouvantail. Et c'est une autre des actions que l'on connaît bien de ces composés de plomb, c'est que ça va créer des irritations de la peau, ça va même créer des réactions chimiques dans la peau qui peuvent induire une coloration et des taches noires qui vont apparaître. Et la petite phrase est plus philosophique. Elle seule, Frinée, est apparue encore plus belle, authentiquement, sans avoir besoin d'aucune ruse cosmétique. Et là, vous avez dans ce texte, en fait, toute une évolution qui va apparaître à partir de l'époque grecque, à partir du 5e siècle avant notre ère. Pour les Égyptiens, je vous l'ai dit, phare était un phare qui servait à séduire, à se soigner, qui était en fait en relation également avec les divinités, avec les dieux. Ici, c'est plus le cas. Le phare va permettre à des femmes de paraître belles, mais pas de manière authentique, de tromper l'autre, de tromper son apparence pour séduire une autre personne, un autre homme, en utilisant différentes ruses. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que l'usage des cosmétiques s'est complètement séparé, finalement, de traditions pharmaceutiques telles qu'on pourrait l'imaginer, qu'on le démontre, notamment en Égypte ancienne. Alors aujourd'hui, les choses changent et le maquillage commence à reprendre toute une série d'autres types de propriétés. Et on essaye notamment d'affirmer que ça permet d'avoir un meilleur bien-être grâce à ce type de substance. Mais très très longtemps, le maquillage a été considéré par la religion chrétienne, par les philosophes grecs, comme une action visant à tromper l'autre. Donc après, on a d'autres types de phares qui existent également à ces époques, et notamment du phare rose. Alors je vous ai parlé quasiment que du plomb. Je vais venir un tout petit peu sur ce phare rose rapidement pour vous montrer encore un autre procédé de synthèse qui existait. Là, vous avez un petit flacon. Alors celui-ci est romain. Il a été trouvé en Allemagne, à Wederath. Et vous avez à côté un de ces petits prélèvements, comme je vous ai montré tout à l'heure, vu au microscope optique, d'une très très belle couleur rose qui a été fabriquée avec un autre type de matériau que l'on appelle un pigment laqué et qui est une autre, finalement, des grandes inventions antiques d'extraction et de synthèse de matériaux. Donc le pigment laqué est une astuce pour fixer un colorant sur une matière minérale. Donc extraire d'une plante un colorant que l'on va réussir à fixer sur une matière minérale pour en faire une poudre qui pourrait être utilisée comme produit cosmétique, qui pourrait être utilisée pour la peinture. Le colorant lui-même, ensuite, on pourra l'accrocher également sur des textiles pour donner toute une série de couleurs. Et donc le principe de ces recettes, c'est d'extraire, je vais y revenir avec une toute petite vidéo, donc d'extraire de plantes, notamment de la garance, des molécules colorantes comme l'alizarine, la purpurine, qui sont donc des molécules très particulières qui vont donner cette couleur. Et puis cette coloration, la faire précipiter grâce à un composé très riche en aluminium, notamment de l'alun, de façon à fabriquer un pigment rose. Alors je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a faite au laboratoire pour montrer un petit peu le type d'action finalement et la simplicité qui peut exister. Donc on a, avec deux de mes collègues, Rémi Brageux et Elsa Van Esland, toute une série d'actions pédagogiques. Alors vous pouvez les retrouver sur le site internet du labo. On essaie de donner des recettes pour expliquer comment ça se passe. Donc là vous voyez, on a mis de la lin et puis on va mettre ces petits morceaux de racines, de garance sèche. Donc ça va être un petit peu en accéléré, vous allez voir que très vite, en fait, on arrive à extraire ce type de colorant. Donc tout à l'heure, je vous disais, on a des procédés compliqués pour la lorgnite ou le blanc de plomb qui nécessitent des durées très longues. Ici, on est vraiment en présence d'une cuisine extrêmement simple. Donc on va avoir cette couleur rouge ou rose, orangée, rouge-orangée, qui est extraite des racines. Donc nos molécules colorantes, la lysarine, la pseudopurpurine de tout à l'heure, et puis on change de béchère de façon à le mettre dans un autre béchère, et vous allez voir, on va rajouter à ce moment-là une solution, et immédiatement, on va pouvoir fabriquer la poudre rose en quelques secondes, quelques minutes. Donc là, c'est une magnifique invention, très très simple du point de vue chimique, mais juste en plusieurs étapes, ou par un savant dosage finalement des ingrédients. Donc là, on rajoute une solution pour changer le pH de la solution. Et puis vous voyez, bon, ça mousse aussi un petit peu, mais vous voyez la poudre qui est en train de tomber. Bon, voilà, c'est en temps réel, hein, on n'a pas accéléré les images. Maintenant, on les accélère un petit peu plus. Donc c'est une expérience qui dure quelques minutes, mais qui a permis à cette époque-là donc, de fabriquer des grandes quantités de ces fards roses, et donc de là, d'avoir toute une série de nuances de couleurs. Alors qu'on peut reconstituer au laboratoire avec les différentes molécules qui sont présentes dans différentes plantes pouvant être à l'origine de ces produits, donc l'alizarine, la purpurine. Puis vous voyez, on a des nuances de couleurs qui apparaissent. Et puis ici, en fait, on a fait ces expériences pour vous montrer qu'il suffit de très 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 peu de molécules colorantes pour fabriquer finalement un joli rose, comme vous avez ici dans les lignes du bas. Il suffit de une molécule colorante pour 25 000 aluminium pour fabriquer un rose qui est celui en fait qui correspond aux produits que l'on avait dans l'Antiquité. Donc il n'y avait même pas besoin de beaucoup de racines de garance pour réussir à fabriquer des pigments qui avaient la bonne couleur pour se farder les joues. Mais ce n'était pas les seuls matériaux, on en avait d'autres. Et donc là, vous avez d'autres objets que l'on a pu échantillonner, provenant de différents sites, par exemple à Athènes, Démétrias, qui est à 300 km au nord d'Athènes, à Volos, Érétrie, qui est une petite île à côté d'Athènes. Et là, vous avez différents flacons qui contiennent encore ces poudres roses. Et je vais vous les mettre pour vous rajouter encore d'autres éléments sur ces toxicités et ces dangers de ces substances qui pouvaient être employées, malgré le fait qu'on le savait bien. Mais à Athènes, par exemple, la poudre rose n'a pas été faite avec de la laque, mais qui a été faite par un mélange de notre blanc de plomb, de notre céruse, avec du cinabre. Et le cinabre, c'est un sulfure de mercure. Donc, encore d'autres types de substances, où là, les auteurs antiques sont beaucoup moins... Enfin, on fait beaucoup moins de commentaires dans leurs textes sur les dangers de ce cinabre, pourtant incroyablement toxique, notamment par la gestion. Et puis à côté, ben, le blanc de plomb a été mélangé avec ce pigment laqué de garance qui devait être trop soutenu. Donc ils savent, en mélangeant les ingrédients, avoir des nuances de couleur. Et puis à Érétrie, ils ont utilisé du blanc de plomb avec un oxyde de fer, de l'ocre, pour réussir à avoir ces différentes couleurs. Et donc là aussi, ben, la palette finalement est au niveau des couleurs et des tons. Il y a du blanc, il y a du rose, mais en fait, au niveau de matière, on va utiliser un très grand nombre de substances de façon à réussir à fabriquer toutes les tonalités que l'on cherchait à avoir à ces époques-là. Donc le dernier point est un autre point très à la mode aujourd'hui, dont on parle beaucoup, dont on a parfois un petit peu peur, parce qu'on ne connaît pas forcément bien, c'est l'aspect des nanotechnologies. Donc les nanotechnologies, cette idée de réussir à fabriquer des choses très très petites, à l'échelle du nanomètre, de façon à avoir des propriétés intéressantes. Donc ça touche tous les domaines, hein, de l'énergie par exemple, jusqu'à la beauté éventuellement, et ça touchait ces domaines de la beauté déjà dans l'Antiquité gréco-romaine. Et donc dans l'Antiquité gréco-romaine, on utilisait, je vais vous montrer dans un instant un petit texte, des recettes qui permettaient de teindre les cheveux en noir, et qui sont des véritables recettes de nanotechnologie d'aujourd'hui, sans le savoir bien entendu de nouveau à l'époque. Et donc vous avez ces recettes qui sont toujours employées aujourd'hui par une entreprise américaine sous le nom de Gresham Formula, donc qui permet, c'est surtout pour les hommes, de restaurer la couleur naturelle des cheveux en juste 3 semaines. Et vous avez sur Internet toute une série de plaisanteries, notamment relativement récemment, sur Obama, qui en 2002 avait quelques cheveux blancs et qui maintenant on ne voit plus blanc. Et donc ce type de teinture, en fait, de nouveau à base de plomb, est une teinture intéressante parce qu'elle est progressive et permanente. Donc c'est-à-dire qu'en juste 3 semaines, en appliquant, vous allez voir, un composé de plomb sur les cheveux, ben, vos cheveux blancs, je ne l'ai pas encore fait, deviennent noirs. Et donc les gens s'habituent au cours du temps à ce changement de couleur. Donc c'est une jolie astuce. Et nous, quand on a vu ça, on s'est dit, mais bon, déjà, pourquoi Gresham Formula, cette marque américaine? C'est parce qu'elle se réfère à l'Antiquité grecque. Gresham, c'est comme grec. Et donc ça a un sens. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans nos textes? C'est encore de la chimie du plomb. Et donc, vous avez toujours notre auteur, par exemple, Galien, qui nous dit, dans un de ses ouvrages, qu'il avait dit avant qu'à son avis, un médecin n'utiliserait pas ses recettes comme celles qu'il suit. Néanmoins, parfois, et là, c'est une autre des exigences de la société, des femmes royales en donnent l'ordre, auquel on ne peut refuser. Donc malgré les dangers que le médecin connaît, il accepte parce que certaines femmes royales désirent noircir leurs cheveux ou bien les faire blondir. Et donc là, voici la petite recette. Il faut de nouveau prendre notre oxyde de plomb, la litharge, la mélanger avec de la chaux, un petit peu d'une certaine terre, du miel, un petit peu d'eau, un extrait liquide de cendre, et on enduit chaque cheveu. Cette recette, en fait, on va la traîner jusqu'au XXe siècle. Jusqu'à la Gresham Formula, on va la retrouver dans des traités médicaux arabes, on va la retrouver dans des textes sur les méthodologies féminines pour les produits de beauté, par exemple au XVIe siècle, on va les retrouver dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, comme des recettes extrêmement sérieuses pour faire cette teinture progressive. Et donc là, vous voyez, ici, en fait, A, B et C, l'évolution que peuvent prendre des cheveux blonds, ici, pas blancs, au cours du temps. Donc au bout de 6 heures, ils deviennent marrons, au bout de 6 heures de traitement, et puis au bout de 3 jours en permanence de traitement, ils deviennent noirs. Et donc suite à une transformation chimique, qu'aujourd'hui on est à même de recomprendre et de réinterpréter. Et donc en fait, bah, chimiquement, on peut de nouveau décrire les choses, comprendre du cheveu, de l'oxyde de plomb, c'est les réactions chimiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va mettre de la chaux, cette chaux va induire une eau qui est extrêmement alcaline, extrêmement basique, et puis le constat, c'est que ça devient noir. Et si on prend les cheveux que je vous ai montrés juste avant, et qu'on les coupe, et qu'on les analyse, là vous voyez ici au microscope optique le cheveu normal, il est quasiment transparent, et puis après il devient brun en périphérie, il est noir jusqu'au cœur, et puis ici vous avez le plomb, qui est riche en périphérie, et puis au bout de 3 jours, qui a atteint complètement le cœur de la fibre. Donc ça veut dire que le plomb, a priori, doit contribuer à la teinture des cheveux. Et donc il y a une corrélation entre le changement de couleur et le fait que le plomb rentre. Mais alors comment une telle réaction se passe et qu'est-ce qui arrive? Et pourquoi c'est finalement extrêmement sophistiqué? Ben, vous connaissez bien le cheveu, donc le cheveu c'est une fibre qui a une petite taille de l'ordre de 80 micromètres hein, de diamètre ici, et puis vous voyez ces écailles, et puis en fait c'est une matière qui est d'un point de vue chimique extrêmement complexe et extrêmement intéressante. Et un cheveu, c'est finalement à l'échelle des molécules la même chose qu'un gros câble qui sert à maintenir un bateau à quai, un gros bateau par exemple à quai. C'est toute une série d'assemblages de fibres. Donc le cheveu est basé d'une protéine, est composé essentiellement d'une protéine qu'on appelle la kératine, vous connaissez bien, on en entend très souvent parler, qui se met en forme d'hélice, une petite hélice, et puis cette kératine en hélice va se mettre par paire de deux kératines, donc elles vont se torsader ensemble, et puis cette torsade va se mettre par paquet de torsades, et puis ce paquet de torsades par encore des paquets, et puis ainsi de suite à toutes les échelles, jusqu'à l'échelle du cheveu. C'est ce que vous avez dans le petit graphe qui est ici. On part de la première fibre, par deux, par paquet, puis vous voyez, vous avez toute une série de cylindres, comme ça, agrandis à chaque coupe, qui vous montrent toute une série d'échelles, finalement, d'assemblages. On va appeler ça des assemblages supramoléculaires, donc qui sont vraiment des assemblages où les molécules vont interagir entre elles, sans être rigidement associées, mais qui va être extrêmement intéressant, parce que ça donne toutes les propriétés de nos cheveux. Et puis le cheveu, en fait, ici c'est un grand tableau chimique, un peu dur, où je vous ai mis en fait les petits sigles qui correspondent à tous les acides aminés, parce que le cheveu c'est essentiellement donc une protéine avec une liste d'acides aminés que l'on connaît bien. On a tous grosso modo la même composition en acides aminés dans nos cheveux, et parmi eux il y en a un qui est très important, qui s'appelle la cystine, et qui est un acide aminé qui contient beaucoup de soufre. Alors pourquoi je dis il est très important? Parce qu'en fait c'est lui qui va être à l'origine de notre réaction chimique. Et en fait, dans cette réaction, grâce à la présence de chaux et de ce milieu très alcalin, la cystine se décompose, va réagir, le soufre va réagir avec le plomb, et on va former de la galène dans le cheveu. Et ça, c'est des choses qu'on peut réussir à identifier, par exemple avec des méthodes de diffraction de rayons X, qui sont les graphiques que vous avez ici, où on a des pics à des endroits bien particuliers, qui nous permettent de démontrer que c'est de la galène, et même de voir que cette galène est de taille nanométrique, de quelques nanomètres de taille. Et donc nous, on a fait toute une série d'études chimiques pour caractériser tout ça, le démontrer, et donc on arrive très bien aujourd'hui à comprendre parfaitement cette recette de l'Antiquité, pour se rendre compte exactement de la nature des acides aminés qui se décomposent, comment ils se décomposent. Alors, je vous dis très bien, en fait, on a encore des choses qu'on ne comprend pas très bien, mais on y arrive progressivement, pour arriver finalement à la présence de ces nanoparticules dans le cheveu. Donc ça c'est une coupe de cheveux, et il faut zoomer à très fort grossissement, donc ça c'est les écailles du cheveu qui sont coupées, et puis on va grossir, vous voyez là l'échelle est 2 microns, là l'échelle est 0,5 microns, et puis on doit grossir encore au cœur de tout cela, pour voir des petites taches comme vous avez ici, ou ici, celle-là est bien nette, mais en fait vous voyez peut-être plus ou moins bien, moi je le vois d'ici, des petits points, en fait ces petits points correspondent à l'agencement des atomes de plomb, eux-mêmes, hein, on voit quasiment les atomes de plomb à l'intérieur, de cristaux de galène, qui ont une taille d'à peu près 5 nanomètres. 5 nanomètres, c'est 5 millionièmes de millimètres. Donc des cristaux de galène qui sont tellement petits qu'ils ne modifient même pas les propriétés du cheveu. Et c'est ça l'astuce incroyable qu'il y a eu dans cette recette et qui de nouveau a dû lui donner son succès pendant plus de 2000 ans, c'est qu'on peut avoir une teinture des cheveux qui permet d'avoir progressivement des cheveux noirs, cette coloration est minérale, donc ne peut plus changer, au contraire d'autres colorants végétaux qui, eux, au cours du temps, se décolorent, changent de couleur, c'est pas toujours très joli. Et puis en plus, comme ces particules sont nanométriques, ça ne change pas du tout l'aspect de la chevelure, et les cheveux restent en bon état et souples, d'où tout l'intérêt notamment de ces femmes importantes qui réclamaient donc à Galien l'utilisation de tel type de recettes de façon à changer la couleur de leurs cheveux. Et donc ça montre encore cette recherche finalement qui pouvait exister à cette époque-là, cette recherche pour réussir à fabriquer donc toute une série de procédés de traitement donc liés à la beauté, de fards ou de traitements de teinture. Je pourrais vous donner d'autres types d'exemples. Après, il y a beaucoup de molécules organiques extraites d'une grande variété de plantes qui existent. Il y a tout un savoir-faire qui existe également dans l'usage de toute une série d'autres types de matériaux, notamment des matières grasses pour avoir des textures différentes, faire adhérer à la peau, etc. et qui ont permis donc de développer tout ce savoir-faire. Et tout ce savoir-faire pour la beauté, bon là vous avez quelques petites images, et qui est vraiment complètement exceptionnel, et cette invention qui a pu exister pour cette invention chimique. Et une invention chimique, par ses voies de chimie douce, dans tous les cas, que l'on ne retrouve pas tellement dans d'autres types de domaines. Que l'on va retrouver pour fabriquer des pigments, également des pigments pour l'art, mais finalement qui ne sera pas quelque chose qui semble être extrêmement généralisé. Ils n'ont pas cherché à transformer tous les matériaux qui existaient dans la nature par ces voies de chimie douce, mais ils se sont focalisés sur le plomb pour en tirer toute une série de matières intéressantes. Donc je vais m'arrêter là, juste bien, comme d'habitude, ce type de recherche, c'est toujours un grand travail d'équipe, et donc c'est une des grandes spécificités que l'on a dans ce type de domaine associant chimie et histoire, de faire converger les intérêts de toute une série de spécialistes, et même dans ce cas-là, d'industriels, puisque beaucoup de ces recherches et des analyses ont été faites avec mes collègues chercheurs de chez L'Oréal. Donc je voudrais m'arrêter là, et donc laisser le temps à la discussion. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Philippe Walter. Alors, question, il y en a tout de suite une, je crois. Non ? Ah, je me suis mépris sur le... Si, voilà.
Bonsoir. Il existe des substances comme la toxine botulique qui ont des vertus différentes selon la concentration ou je ne sais quoi, notamment... soit la suppression présumée des rides, soit l'amélioration de pathologies neurologiques comme les yeux qui se ferment et ça règle le problème. Quels sont les mécanismes sous-jacents? Comment est-ce que ça fonctionne? Et deuxième question, en chimie théorique, est-on capable de prédire une couleur plutôt que d'obtenir une couleur par... tâtonnements successifs jusqu'à obtenir ce qu'on veut.
Alors pour la première partie de la question, moi je ne peux pas du tout vous répondre. Je ne connais pas du tout les mécanismes des toxines botuliques. Pour la deuxième, on peut prédire toute une série de choses. Donc là actuellement, on s'amuse. On cherche à mieux comprendre la chimie sous-jacente au traitement du cheveu et à l'altération des cheveux en fabriquant toute une série d'autres types de composés. Et on sait très bien quand on va fabriquer des nanoparticules de tel type de matériaux, de tel type, par exemple, de sulfure de cadmium, sulfure de mercure, sulfure de plomb, etc., qu'on va pouvoir jouer sur la couleur. Et on est capable de fabriquer des choses, d'ailleurs, qui peuvent devenir très amusantes au niveau des couleurs, parce qu'on a des données relativement claires. Alors après, du point de vue de la couleur, il y a beaucoup de paramètres qui vont rentrer en compte. Tout à l'heure, je vous ai montré la galène. Donc la galène est de couleur noire, on va dire. Mais en fait, si vous broyez la galène relativement peu... ce que je montrais en photo tout à l'heure, vous avez des plans qui sont tellement plats que ça va jouer un effet de petit miroir et que la galène apparaîtra grise à reflets métalliques et plus du tout noire. Après, vous avez d'autres types de pigments comme les oxydes de fer et on peut le démontrer aussi. Et on sait bien les mécanismes sous-jacents à ça. L'hématite, qui est un oxyde de fer particulier, en gros, cristaux va être noir, broyé finement va devenir rouge parce qu'on a des phénomènes d'interaction avec la lumière qui changent de nature en fonction de la taille des grains et de l'interaction entre la lumière et les grains. Donc ça, c'est vrai que dans l'Antiquité, bien entendu, ils n'avaient pas forcément ce type de préoccupations. Par contre, ils avaient toute une série de recherches. Et un autre aspect sur lequel on n'a toujours pas réussi à conclure, mais qui nous avait beaucoup surpris en observant certains cosmétiques, c'est qu'ils étaient parfois bleutés. Donc c'était à base de galène de nouveau, mais qui étaient bleutés. Et on s'est rendu compte, mais on n'a pas fait encore démontrer le lien absolu, qu'on avait des recettes ethnographiques d'Afrique du Nord, notamment de Tunisie, qui racontent que pour fabriquer ce fard à base de galène, au XIXe siècle, on met la poudre dans un tissu bleu avec de l'huile et on brûle l'ensemble. Et en fait, c'est un autre type de transformation de la couleur. En chauffant à des températures de 300 degrés, 250 degrés, cette poudre, on l'oxyde, on oxyde sa surface, et on crée à ce moment-là des phénomènes qu'on appelle d'irisation, et qui vont modifier la nature de la couleur. Et ça, on l'a vu vraiment, très clairement, dans des échantillons archéologiques. On n'a pas réussi à démontrer que c'était totalement lié à la chauffe, et on se méfie d'éventuelles altérations, mais cette recherche d'une couleur beaucoup plus compliquée que le simple blanc, noir ou rouge de tout à l'heure, était une vraie préoccupation de l'époque.
Madame au centre, ici.
Bonjour monsieur et merci de votre prestation très très intéressante. Suivant votre fonction dans la rénovation des musées de France, est-ce qu'on utilise aussi ces techniques pour la rénovation, la restauration des tableaux, des pigments des tableaux? Là, on a beaucoup parlé de cosmétologie, mais voilà, est-ce qu'il y a une autre fonction, s'il vous plaît?
C'est une autre conférence.
Oui, une autre conférence.
Non, bien entendu. Donc, au Centre de recherche et de restauration des musées de France, donc, je vous ai dit, moi, je m'occupe de l'équipe CNRS et d'activités de recherche particulières, mais on s'occupe également d'aider et de contribuer à la restauration pour tous les musées de France. À ce moment-là, les restaurateurs vont utiliser des technologies analytiques quand ils ont des questions, et puis même pour avoir une très bonne documentation avant d'intervenir. Donc le restaurateur a très souvent, voire toujours besoin, de bien vérifier que, pour la restauration d'une peinture, par exemple, un repeint a bien été fait, bien postérieurement à la vie de l'artiste, et pas durant la vie de l'artiste, de façon à oser le retirer, et à réfléchir donc au geste qu'il va faire. Et là, dans ce cas-là, l'analyse va être très pratique, parce qu'on sait que l'histoire des pigments a changé au cours du temps, et donc une peinture du XVIe siècle ne pourra pas avoir utilisé du bleu de Prusse qui apparaît au XVIIIe siècle, par exemple. Et donc on pourra dire au restaurateur, là on est tranquille, c'est bien un repeint postérieur au XVIIIe siècle. Et puis après, il va utiliser d'autres substances pour solubiliser des matières, des saletés à la surface d'un objet, solubiliser un vernis, par exemple, également. Et là, il a aussi besoin d'analyse chimique pour savoir exactement le meilleur protocole à appliquer. Donc il y a une très forte interaction, et ces données sont très importantes pour aider également à la restauration, et au-delà à la conservation, puisqu'on peut aussi, dans certains cas, préconiser les bonnes conditions de conservation dans un musée. Et ça, on s'en rend compte aujourd'hui, qu'on arrive de mieux en mieux à comprendre des mécanismes de transformation de la matière, d'altération, savoir d'où ils viennent, et de là, on peut dire au conservateur, attention, sur ce type de tableau, il y a tel pigment qui réagit aux ultraviolets, donc il faut vraiment mettre une vitre pour protéger les ultraviolets, par exemple.
Tout en bas, monsieur Jean-Pierre Mohen.
Est-ce qu'il y a une réponse au fait qu'on traite les cheveux différemment des autres poils du corps, comme la barbe, par exemple?
Alors, je n'ai pas de réponse scientifique là-dessus, mais c'était une préoccupation. On a des petits textes comme ça, il y a une préoccupation, j'ai failli la mettre, où justement il y a un auteur qui dit mais on arrive bien à traiter les cheveux, mais pourtant pour la barbe c'est beaucoup plus compliqué. Bon, il n'y a pas la même taille de fibre, il n'y a pas les mêmes... Mais par contre il y a les mêmes réactions chimiques qui se produisent. Hein. On peut sur une barbe appliquer la Gresham formula et avoir une belle barbe noire. Ça marchera très très bien à coup sûr. Le poil est le même, le poil a un autre diamètre, mais la constitution est la même. Mais par contre il est un peu plus gros.
Une question en haut. Pardon.
La pétrochimie. Merci beaucoup. Vous nous avez parlé des couleurs. Est-ce que vous vous intéressez aussi aux odeurs? Puisque un petit peu dans votre domaine, j'ai dû faire ce qu'on appelle de la vanilline, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous vous intéressez aux odeurs, en particulier aux odeurs anciennes, aux parfums?
On essaye de temps en temps de s'y intéresser. Alors je dis on essaye parce qu'on a, on a des flacons à parfum dont on est sûr de l'usage à l'époque, ou quasiment sûr, et qu'on aime bien essayer d'analyser. Le gros problème, c'est qu'un parfum, par définition, est volatile. Il part en fumée. C'est bien sa définition. C'est bien son origine étymologique de nouveau. Et donc un parfum qui a vieilli pendant 2000 ans, alors dans une tombe d'Égypte pendant 4000 ans, ou 2000 ans dans nos régions, a toutes les chances d'être volatilisé, d'avoir disparu. Donc on retrouve beaucoup d'informations sur les substrats qui pouvaient exister par rapport à ces parfums. Donc l'utilisation de différents types d'huiles, l'utilisation de mélanges d'huile et de résine qui étaient abondamment mélangés pour fabriquer toute une série de parfums dont on a de nouveau des recettes et dont on a parfois fait des reconstitutions. Mais on n'a encore pas réussi de manière très claire à identifier des choses. Alors, sauf dans un cas, on a eu un résultat très très joli sur un petit objet médiéval qui a été trouvé en Allemagne à Erfurt. À Erfurt, ils ont trouvé un petit trésor, il y avait une exposition au musée de Cluny il y a 3-4 ans, un petit trésor d'argent qui avait été enseveli au moment de la grande peste qui se développait. Et donc on a retrouvé un tout petit objet qui contenait à l'intérieur un fil, et sur ce fil des matières organiques. Et sur ces matières organiques, on a pu démontrer l'existence de deux substances très connues dans les parfums, qui sont l'ambre, gris, et le musc. Et donc là, on arrive vraiment... Alors, certainement pas avoir la vraie odeur, une odeur qui devait être abominable, ces composés à l'état pur sont d'une force absolument incroyable. Alors est-ce que c'était un parfum, est-ce que c'était plutôt un parfum d'ambiance? Vous imaginez bien pendant l'époque de la peste les odeurs qui pouvaient exister, donc une odeur très 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 forte, et peut-être que l'idée à l'époque était surtout d'approcher ce flacon du nez pour avoir une odeur encore plus forte que les odeurs nauséabondes de l'environnement. Mais on a beaucoup de mal à le faire pour les périodes plus anciennes, voilà.
Mais pourtant, vous avez fait une expérience avec L'Oréal au moment de la grande exposition qu'il y a eu sur l'Égypte au Grand Palais. Oui. Est-ce que ce parfum, d'abord, vous l'avez commercialisé ou ça a été simplement une expérience et quel en a été pour vous les effets?
Donc avec mes collègues de L'Oréal Recherche, le principe c'est qu'on travaille sur l'histoire de ces produits pour essayer de comprendre comment ils ont été faits et puis les origines finalement d'une science pour les cosmétiques et pour la beauté. Donc ça c'est pour vous répondre à la commercialisation. Il y a une étanchéité entre ce qu'on fait et les aspects commerciaux. En tout cas jusqu'à présent, après ils feront ce qu'ils veulent. Mais dans nos recherches, ça s'est toujours passé comme ça. Et donc là l'idée était justement la voie expérimentale. Comme on n'arrive jamais à comprendre ce qu'étaient ces parfums d'Égypte ancienne, il y en a notamment un qui est très célèbre qu'on appelle le kifi, et qui a été retranscrit dans des recettes en grec. Alors on a plusieurs recettes. Et donc on s'est dit, essayons de le refabriquer pour s'offrir la possibilité de voir l'été et voir le type d'odeur. Et donc on a pris une recette, alors on peut contester après la liste des ingrédients, mais de nouveau très compliqué, on a demandé à une créatrice de parfums de faire ce travail, Sandrine Vidot, et puis de nous raconter ses impressions par rapport au broyage de toutes les substances, aux macérations, aux cuissons, de toute une série d'ingrédients. La cuisson du miel et de l'encens génère toute une série de sensations pour une parfumeuse qui sont complètement différentes des sensations contemporaines, et pour à la fin arriver à un mélange qui tout seul s'est formé en forme de petites boulettes de 5 mm de diamètre, qui immédiatement nous ont rappelé des gestes qu'on avait sur des peintures égyptiennes, et de ce parfum qui n'était pas un parfum corporel, mais qui était une sorte d'encens extrêmement sophistiqué, et qui était certainement fabriqué pour des rituels essentiellement. Donc on arrive à reconstituer comme ça, avec le maximum de fidélité possible, en tout cas l'esprit que pouvait avoir ce type de substance grâce à des recettes. Voilà, ça s'est arrêté là pour l'instant.
Bien, nous allons en rester là. Ah, pardon, encore une question. Allez-y, monsieur. Vous n'avez pas vu.
Certains marchands de rêves aux prétentions cosmétiques déclarent pouvoir inclure de l'ADN dans leurs produits qui va ensuite se mélanger à l'intérieur des cellules de leurs acheteuses rêveuses. Qu'en pensez-vous? Est-ce vrai? Comment ça marche? Est-ce uniquement de la fiction?
Je ne connais pas de cas précis comme ça, donc je ne sais pas du tout. S'ils le déclarent, c'est qu'ils ont fait toute une série d'essais. Alors après, est-ce que c'est valable ou pas? Ça, c'est un deuxième problème. Mais en général, quand ils déclarent que quelque chose réussit à rentrer, on peut très bien montrer. On a des expériences qui permettent, in vitro, hein, en laboratoire, sur des peaux reconstituées, d'étudier le type d'interaction et ce qui se passe. Maintenant, des échanges d'ADN, je n'en sais strictement rien et... Enfin, moi, je n'y crois pas a priori, mais bon.
Bon, ben on va rester sur cette, ce doute et cette interrogation. Philippe Walter, merci beaucoup.
Merci.